Bonsoir. Nouvelle nomination à la Cour suprême de justice et au Parquet général de la République. Pourquoi ces nominations maintenant et quel impact la nomination du nouveau haut magistrat peut-il avoir sur l'indépendance de la justice en RDC? C'est pendant le week-end que le chef de l'État a signé quelques ordonnances nommant des hauts magistrats. C'est le cas de M. Tinkamani Rebin Digeba, nommé premier président de la Cour suprême de justice, et de M. Mushagalusa Ntayonde Zandi, nommé procureur général de la République. À travers les ordonnances signées par le président de la République, certains magistrats ont été mis à la retraite. Dialogue entre Congolais qui penche ce soir avec trois invités, Kabumba Bendera Jacques-Edouard, secrétaire général au ministère de la Justice, M. Sambaï Moutenda Lukusa, président du syndicat national des magistrats Sinamal, et François Elika, que vous connaissez déjà, analyste politique et assistant à l'école du journalisme IFASI. Nous avons déjà de nombreuses réactions de votre part, vous fidèles auditeurs. Zozo Sakalidou, Lubumbashi Okatanga, pense que la justice de notre pays a toujours été considérée comme un canard boiteux et il fallait, estime-t-il, à tout prix ce changement. Point de vue contraire de Félix de Kikuito Bandoulou, qui pense pour sa part que ces ordonnances signées prouvent une fois de plus le manque de respect des institutions par le président de la République. Enfin, Talibou de Goma au Nord Kivu estime que ces nominations ne changeront rien, mais il faut plutôt, pense-t-il, que les dirigeants congolais changent de mentalité. Fin de citation.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Comment doit se faire la nomination de haut magistrat au sein de la Cour suprême de justice, future Cour constitutionnelle? Notre confrère Guy Roger Nyampala nous en parle.
En son article 158, la constitution de la RDC stipule que la Cour suprême des justices, future Cour constitutionnelle, comprend 9 membres nommés par le président de la République. 3 d'entre eux sont nommés par sa propre initiative, les 3 autres par le Parlement réuni en congrès et les 3 derniers membres par le Conseil supérieur de la magistrature. Le même article dit que les 2/3 de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour suprême des justices est de 9 ans non renouvelable. Cette cour est renouvelée tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour suprême des justices est élu par ce pair pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Il est investi par une ordonnance du président de la République. Par ailleurs, l'article 159 de la Constitution stipule que nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est congolais, s'il n'est justifié d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. Enfin, en son article 223, la constitution de la RDC autorise l'actuelle Cour suprême des justices d'exercer toutes les compétences dévolues à la Cour constitutionnelle, au Conseil d'État et à la Cour de cassation jusqu'à ce que ces différentes cours soient instituées.
Nous allons maintenant passer à différentes réactions pour les députés nationaux MLC Fidel Babala qui parlent d'une purge. Les ordonnances du chef de l'État violent le statut qui régit les magistrats. Il a dit au téléphone de notre consoeur Mireille Kabbala.
Nous sommes en train d'assister à une purge sans précédent. Il est dit que les magistrats sont mis quasiment à la retraite après 30 ans de service ou 60 ans d'âge. Ça, c'est l'ancien statut. C'est sur base de ce statut que le chef de l'État a pris les ordonnances de nomination des nouveaux membres. Alors que le nouveau statut stipule de manière claire, c'est après 40 ans de service et 70 ans d'âge qu'un magistrat ou un procureur général de la République peut être mis à la retraite. Ça, c'est une violence. Nous disons que on est en train de fragiliser encore une fois le système judiciaire congolais. Sur base de quoi le nouveau premier pourra dire le droit de manière correcte s'il n'arrive pas à bénéficier de l'expérience des anciens? Le chef de l'État, qui en était conscient, le premier, de pouvoir dire qu'il faut réformer la justice, mais je crois qu'il a choisi la mauvaise façon de réformer la justice.
Quant au ministre de la Justice, Maître Mutombo Bakafuanseda, les 3 types d'ordonnances signées par le président de la République entrent dans le cadre logique de la loi. Ces décisions ne sont pas arbitraires et ne se posent aucun problème d'opportunité de ces nominations. On l'écoute au téléphone de notre consoeur Agathe Mpona.
Le président de la République a pris les ordonnances de mise à la retraite, les personnes concernées remplissent les conditions pour être mises à la retraite, comme tous les fonctionnaires de l'État, 65 ans d'âge ou 35 ans de service accompli. Donc, ce n'est pas une décision arbitraire, ce sont des conditions qui sont prévues dans le statut qui régit les magistrats. Donc, ce n'est pas un problème d'opportunité. Prenez le statut des magistrats, l'article 70. Les conditions pour qu'un magistrat soit mis à la retraite sont détaillées à l'article 70 du statut des magistrats. La deuxième ordonnance, le président constate la démission d'office. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des magistrats qui ont été nommés depuis longtemps, qui n'ont jamais rejoint leur poste. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ça fait des années, la plupart de ces magistrats touchent l'argent de l'État, alors qu'ils n'ont jamais rejoint leur poste. Certains sont dans les entreprises privées, d'autres sont même à l'extérieur. La troisième catégorie d'ordonnances, ce sont les ordonnances de nomination. Il est normal que lorsque on met quelqu'un à la retraite, ça crée un vide qu'il fallait combler. C'est la loi, madame. Il faut l'appliquer ou il ne faut pas l'appliquer?
Monsieur Kabumba Bendera, vous êtes secrétaire général au ministère de la Justice. Est-ce que les hauts magistrats nommés pendant le week-end garderont leur poste après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature?
Je pense que je voudrais d'abord rectifier quelque chose que j'ai entendu là-bas. Que dans la statut actuelle, il est prévu 40 ans de service pour que le magistrat soit retraité. Non, je crois que l'article 70 qui prévoit 65 ans d'âge ou 35 ans de service. Sur ce plan, puisqu'il s'agit de la retraite, il n'y a aucun problème. C'est l'application tout à fait de la loi. Cela est bien compris. Alors, je ne sais pas quel est votre souci lorsque un magistrat a rempli les conditions tout comme un fonctionnaire et qu'il est retraité par l'autorité qui a le pouvoir de retraiter des nominations, c'est le chef de l'État. Et en l'absence de du Conseil supérieur de la magistrature, et alors je crois que le chef de l'État a ce pouvoir de prendre une telle décision.
Et qu'est-ce qui fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas encore mis en place?
Mais c'est un problème d'abord du Parlement. Vous avez suivi ce qui a été dit. Le Parlement a beaucoup de lois à prendre. Le temps qu'il faut attendre c'est l'examen de ces lois-là et que les conditions sont réunies pour retraiter le magistrat, c'est pourquoi on a dit que cet article est tout à fait exceptionnel et vu la nécessité.
Et quand est-ce que vous pensez que cette nouvelle institution, si on peut l'appeler ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature, sera mise en place?
Mais je dis, il y a le Parlement qui doit décider, d'abord, d'examiner les projets qui doivent être présentés. Après l'examen du projet, le chef de l'État va statuer là-dessus. C'est le problème du calendrier et qui est très chargé, à mon sens, de l'Assemblée nationale.
Je reviens à ma question, monsieur le secrétaire général au ministère de la Justice. Est-ce que les hauts magistrats nommés pendant le week-end garderont leur poste après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature?
Le chef de l'État a décidé conformément à ses attributions et compte tenu des circonstances exceptionnel. Et lorsqu'il faudra mettre encore en place les magistrats, je pense que ceux qui ont été nommés par la même autorité peuvent rester ou doivent rester en place. Ce n'est pas une proposition, disons une nomination provisoire. Si c'était provisoire, on pourrait dire que lorsque sera établi, institué le Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État pourrait encore revenir sur sa décision et désigner. Ils ont été légalement installé, il faut rester après.
Nous avons également en ligne, au téléphone, M. Sambaï Moutendalou-Koussa. Vous êtes président du syndicat national de magistrats, SINAMAG. Vous venez de suivre le secrétaire général au ministère de la Justice. Est-ce que vous avez une réaction particulière?
Je suis vraiment au regret d'entendre tout ce que je viens d'entendre maintenant.
C'est-à-dire?
Parce que sur le plan strictement juridique, il faut relever beaucoup de les choses que je n'ai pas appréciées dans l'intervention des autres qui m'ont précédé. D'abord, prenons les choses dans le sens juridique indiqué. On parle de la mise à la retraite de deux types de magistrats. Les magistrats de la haute de la Cour suprême de justice ainsi que du parquet général de la République, ainsi que les magistrats, les autres hauts magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Le statut actuel, c'est celui-là qui devait être pris en considération, pas l'ancien statut. Sinon, alors, nous faisons des histoires comme dans un pays où n'existe pas de loi. Vous savez que l'actuel statut remonte à la date du 10 octobre 2006. Et c'est ce statut-là qui régit actuellement les magistrats. C'est pas l'ancien statut. J'ai entendu des choses qui me font frissonner. Donc, au regard de ce statut, les magistrats qui évoluent au niveau de la Cour suprême de justice trouvent les conditions de leur mise à la retraite à l'article 70. C'est, pour eux, il est prévu l'âge maximum de 70 ans pour être mis à la retraite. 30 ou 35 ans pour... Et cela est une chose. En quoi cela peut-il contribuer au bon fonctionnement de la justice aujourd'hui? Nullement. Parce que quand vous voyez les nominations qui ont été faites, disons d'abord la mise à la retraite, qui vit de la Cour, qui vit de l'Opaté général de la République, et qui on y envoie des néophytes, s'il vous plaît. Sauf quelques rares qui, au niveau de ces cours, de cette cour-là, qui ont été maintenus.
Excusez, M. Samba, mettre à la retraite des magistrats ou des hauts magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, est-ce que c'est illégal?
Aujourd'hui, présentement là, c'est illégal.
C'est-à-dire?
Pourquoi? Parce que nous avons une constitution qui établit l'indépendance du pouvoir judiciaire et qui dit que les nominations ne peuvent être faites que sur recommandation, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Mais ce conseil n'a pas encore été mis en place, le Conseil supérieur de la magistrature.
Voilà, et c'est là que j'attendais au tournant les intervenants. Ils disent que le Conseil supérieur n'a pas encore été mis en place. Ils savent que la loi portant ce Conseil a été votée à l'Assemblée nationale, que le tout reste maintenant au Sénat. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette loi soit votée? On a attendu plus de 5 ans. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire en vous disant que cette proposition de loi remonte à l'an 2003. C'est le pouvoir exécutif qui a tout fait pour que cette loi ne soit pas votée. Est-ce que ce même pouvoir peut utiliser aussi aujourd'hui son refus, son mauvais comportement pour justifier l'absence de la loi portant au Conseil supérieur? En droit, ce n'est pas permis, et il y a un principe de droit qui consacre cela, et c'est « nemo auditur ». Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, ça veut dire que je viens de balayer les visas qui ont consacré les ordonnances qui ont été prises, pour vous dire qu'elles sont illégales, parce que nous devons tous tabler sur la constitution actuelle qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui consacre le pouvoir de gestion du pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur. Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui vient d'être votée? Reste seulement attendre 2 ou 3 mois pour que cette loi soit votée. Je ne vois pas l'urgence qu'il y avait. Nous ne sommes pas dans un état de guerre, nous ne sommes pas dans un état d'urgence pour qu'on puisse prétendre qu'il y a urgence aujourd'hui. Il y a urgence depuis 4 ans. Pourquoi a-t-on attendu pendant 4 ans? Je pense que c'est maintenant là-bas. Il y a des actions politiques qui sont en train de se préparer.
Monsieur Sambaï, merci beaucoup. Est-ce que nous avons également dans ce studio François Elita, analyste politique et assistant à l'IFATIC. Bonsoir, M. l'assistant.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez également réagir par rapport à tout ce que vous venez d'entendre de la part de nos deux interlocuteurs?
Merci. Bon, disons que je l'ai suivi comme Monsieur Sambaï. C'est lui qui est passé avant. Je ne l'ai pas suivi. Compte tenu du retard avec lequel je suis arrivé. Mais dans tous les cas, je note que les décrets, en fait, les ordonnances présidentielles qui ont consacré aussi bien la nomination que la mise en retraite de ces magistrats semble souffrir, à mon sens, d'un déficit d'opportunités, parce que je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous devons tout faire pour permettre à la démocratie de construire elle-même son contenu de liberté. Et ce contenu de liberté prend en compte le fait que le principe de l'indépendance au niveau de chaque institution, tel que consacré par la Constitution, devra être respecté. Si on nous dit qu'on est en face du souci exprimé pour que la justice soit plus efficace, ça signifie qu'en réalité, il y a une question de procédure. Cette question de procédure nécessite, à mon sens, qu'on laisse le Conseil supérieur se mettre en place et que ce soit au sein de ce Conseil supérieur que toutes les questions doivent être débattues parce que finalement, ce Conseil supérieur est au fait institué comme l'autorité devant gérer toutes les problématiques liées à la recherche d'une efficacité pour la justice. Donc je pense que ici, il y a à travers l'argumentaire qui est présenté pour soutenir ces ordonnances, je note qu'il y a une sorte de recherche de clientélisation de l'institution qui pourrait, à la longue, produire des conséquences graves en termes d'autonomie fonctionnelle, en termes d'indépendance et en termes de capacité de cette magistrature à rendre justice sans interférence politique. Nous, je note aussi le fait qu'on est en face ici d'un argumentaire dont l'impensé du discours semble révéler le fait que on veut donner une symbolique forte. Cette symbolique voulant dire, écoutez, l'exécutif a toujours une mainmise, la justice qui doit se construire dans le pays, c'est celle qui, en principe, doit épouser le contour de la vision qui aura été tracée. On n'est pas très loin de cet argumentaire développé au niveau du Parlement. On a dit, il faut absolument que l'État s'implique puisse veiller sur la justice. Comme si, d'un côté, il y a des gens qui craignent qu'on arrive à une république où, finalement, les magistrats indépendants pourraient mettre en péril l'ensemble de ces processus d'embourgeoisement politique qui se construit au regard des jeux politiques chez nous. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on fasse très, très attention. C'est vrai qu'on entend des discours officiels justifiés. Bon, ça, à mon sens, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que on doit se dire qu'est-ce qu'on recherche dans toutes les réformes, qu'est-ce qu'on recherche à travers toutes les ordonnances. Est-ce qu'on vise l'efficacité lorsque, pour une institution aussi importante, on est en face d'une procédure ou d'une technique ou d'une stratégie qui vide l'institution des meilleures ressources, alors que ces ressources auraient pu d'abord être protégée pour qu'elle transmette l'expérience à des ressources beaucoup plus jeunes, parce que nous savons que au niveau de la Cour suprême, c'est quand même un niveau de sommité en termes de maîtrise de droit, de sorte que cette expérience ne peut pas être banalisée comme ça, elle ne peut pas être jetée à la place publique comme ça. Il faut absolument que le pouvoir organise des mécanismes de transmission du savoir accumulé à travers l'expérience par qui sera magistrat. Donc je crois que il y a, à mon sens, cette logique de personnalisation du jeu politique qui veut qu'on puisse assurer à travers la symbolique de mise en retraite des magistrats et des nominations une sorte de clientélisation.
Monsieur Kabumba Bendera, Jacques Edouard, vous êtes secrétaire général au ministère de la Justice. Vous venez également de suivre l'analyste politique Elika. Vous avez également suivi Monsieur Sambaï. Pour lui, il n'y a pas. Il fallait d'abord attendre la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, car l'urgence existe depuis belle lurette. Quant à François Elika, il parle de clientélisme et qu'est-ce qu'on vise également à travers ces mises en place. Il dit également qu'on vide l'institution de ses meilleures ressources au niveau de la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je voudrais que vous corrigiez d'abord mon nom. Je ne m'appelle pas Jacques, je m'appelle Joseph Edouard.
Merci beaucoup. Allez-y, vous pouvez répondre à la question.
Je voudrais m'interdire de parler des arrière-pensées politiques. Dans mon sens, c'est que lorsque nous référons au statut des magistrats et qu'ils accomplissent l'âge à la retraite, il n'est dit nulle part qu'on peut différer la mise à la retraite. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on attend l'installation du Conseil supérieur de la magistrature pendant des années, pourquoi on ne pouvait pas attendre. Mais le statut a été préparé par le quoi des responsables de la magistrature. Et cette disposition n'ayant pas été prévue là-dedans, je ne sais pas comment on peut attendre nécessairement.
Que vous pensez également, qu'est-ce que vous répondez également à Fidel Babala qui a parlé de purge à travers ses ordonnances du chef de l'État?
Mais comment voulez-vous parler de purge lorsque les magistrats remplissent les conditions? La purge cache quelque chose de politique, qu'on a dit clientélisme. Est-ce qu'on a des preuves pour dire que le chef de l'État fait clientélisme lorsque ça entre dans ses attributions? Et la purge, ça signifie que les magistrats retraités n'ont pas rempli les conditions. Alors on purge, vous voyez, le mot est très fort quand vous dites que c'est la purge. Je m'inscris en faux contre un tel raisonnement.
Voilà, mais il y a aussi, je pense, comment, M. Sambaï, vous êtes président du syndicat national des magistrats, comment les ordonnances du président de la République ont-elles été accueillies auprès même des magistrats? Allô, M. Sambaï? M. Sambaï Moutenda? Voilà, nous avons perdu M. Sambaï Moutenda Lukusa. Nous allons le retrouver bientôt. Donc, nous allons continuer avec la deuxième partie de cette émission. Quel impact la nomination de nouveau au magistrat peut-il avoir sur l'indépendance de la justice en RDC? C'est la deuxième partie de cette émission, mais avant cela, voici comment vous pouvez réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Selon l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, section du Katanga, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature d'y gérer les magistrats et non au ministre de la Justice ou au chef de l'État. L'AZADO Katanga estime que par cet acte, Joseph Kabila, chef de l'État, viole la Constitution. On écoute Maître Joseph Kapiemba, membre de l'AZADO Katanga, au micro de Paulin Munanga.
Il est connu de tout le monde qu'au terme des articles 150 et 152 de la Constitution, seul le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe compétent pouvant faire des propositions de nomination, de révocation, de mutation comme de mise à retraite des magistrats. Et parmi les membres de ce Conseil supérieur, vous allez constater que le président de la République comme les ministres de la Justice n'en sont pas membres. Donc logiquement, il ne pouvait pas être compris que les ministres de la Justice prennent l'initiative de faire le travail du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il fasse signer cela par le président de la République. Lorsque vous lisez le communiqué de l'AZADO, il est clairement recommandé au chef de l'État de pouvoir rapporter ses ordonnances. Rapporter, ça veut dire qu'il puisse revenir sur ses actes.
Voilà, donc nous revenons ici dans ce studio, mais nous voulons d'abord la réaction de Monsieur Kabumba Bendera. Vous êtes secrétaire général au ministère de la Justice. Votre réaction par rapport aux propos de Jean-Charles Kapiemba de la Zado Katanga?
Bon, je voudrais dire une chose, puisque je ne gère pas les magistrats, je ne suis pas sûr ou affirmé que c'est le ministre qui a proposé de sa propre initiative, parce que je n'ai pas été informé. Mais si, je présume, si c'est le chef de l'État dans ses prérogatives et qui a trouvé qu'en attendant l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, il pouvait demander la mise à la retraite, le remplacement de ceux qui ont été mis à la retraite. Et je pense que il a été dans ce droit.
Mais beaucoup d'auditeurs pensent également que la décision du chef de l'État est illégale. Il y a par exemple Mamboula Cédric de Boutembo, Nord Kivu, qui réagit en disant que les ordonnances signées par le chef de l'État sont irrégulières, illégales et par conséquent anticonstitutionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais nous savons que même si le Conseil supérieur de la magistrature était là, celui qui prendait les décisions, c'est le chef de l'État sur le plan de la Constitution. C'est lui qui décide d'une proposition, oui, effectivement, du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui, le chef de l'État.
c'est pas le responsable du Conseil supérieur de la magistrature qui peut, il propose, mais il ne peut pas prendre la décision. C'est le chef de l'État qui a pris la décision.
Monsieur Sambay, on lui dit que vous êtes des gens
oui.
en ligne.
Oui. Oui, oui, je suis en ligne.
Vous êtes le président du syndicat national des magistrats Sinama. Est-ce que ces nominations ont un impact sur l'indépendance de la justice en RDC? Si oui, quel genre d'impact? Parce que nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission.
C'est un impact tout à fait négatif. C'est-à-dire qu'on remet en fait en question les principes constitutionnels arrêtés concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est sur le plan strictement légal. Sur le plan strictement professionnel, l'impact est aussi négatif. Vous savez que la Cour suprême de justice est un service hautement spécialisé qui compte en son sein des gens qui ont mis beaucoup de temps pour apprendre ce qu'on appelle la cassation. Donc les hautes...
Ça signifie quoi la cassation pour nos auditeurs
aujourd'hui? D'abord qu'on balaye tous les anciens qui pouvaient aider les nouveaux à se remettre à niveau. C'est déjà un grand vide. Et qu'on y envoie des néophytes. Les gens qui ont sauté des grèves, ben, c'est une aberration. Et vous comprenez que sur le plan purement professionnel, on fragilise le pouvoir judiciaire. On insécurise les magistrats. On insécurise la carrière du magistrat. Et cela, sur le plan strictement politique, il y a confusion de rôle. Les politiques oublient qu'eux, ils obéissent à un mandat, tandis que les magistrats obéissent à une carrière. Et les deux obéissent à des règles différentes. Donc c'est pour vous dire que globalement, l'impact est totalement négatif.
Mais Monsieur Sambay, on a eu une petite coupure là lorsque je vous ai posé cette question. Vous représentez les magistrats. Comment les magistrats que vous représentez ont accueilli en général cette décision parmi ceux qui ont été envoyés en retraite notamment?
Nous allons apprendre que les magistrats sont tous mécontents. Et pour une fois, il y a des magistrats qui m'ont appelé de l'intérieur, des gens qui ont toujours été froides vis-à-vis de nos décisions, qui étaient déjà prêts à commencer la grève aujourd'hui. Et nous leur avons dit, calmez-vous, vous avez un comité national, il va se réunir et vous communiquera les décisions à prendre. Et c'est ainsi que je vous apprends aussi que nous aurons une assemblée générale extraordinaire. Souvent, c'est jeudi, et à l'issue de cette assemblée, vous apprendrez une décision que les magistrats se proposent de prendre pour que leur carrière soit sécurisée, pour que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit garanti.
Monsieur Sambay, mais l'ordonnance du chef de l'État stipule aussi que certains magistrats qui ont été démis d'office, c'est parce qu'ils ne se sont jamais présentés dans leur lieu de travail ou d'affectation. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a aussi qui travaillent dans certaines entreprises et qui se touchent gratuitement comme ça le salaire de l'État.
Je voudrais vous dire que concernant cet aspect des choses, nous, syndicats autonomes des magistrats, nous avons été les premiers à souligner cet aspect des choses. Et c'est les politiques, notamment le ministre de la Justice ancien, qui a voulu utiliser cela comme argument contre notre syndicat. Et nous avons déjà dit depuis longtemps qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a des magistrats qui travaillent, par exemple, aujourd'hui à la présidence de la République. Ils continuent à payer. Monsieur le président de la République fait cela. Il a en son sein des magistrats qui sont rémunérés par la République. Ils sont doublement rémunérés par la République. Nous avons, nous, soulevé cet aspect des choses depuis longtemps. Mais on a utilisé cela comme argument pour combattre le syndicat autonome des magistrats. Vous comprenez? Et nous pensons, tant qu'à cela, que c'est une bonne occasion qui a été trouvée, mais que l'on devrait, même si cela était le cas, savoir que dans ce pays, il existe des lois et que tout le monde doit se trouver en dessous des lois. Voilà notre grande préoccupation. La communauté internationale a investi beaucoup de moyens pour nous conduire vers un état de droit où fonctionne une démocratie et au sein de laquelle fonctionne un pouvoir judiciaire indépendant. Pourquoi doit-on sacrifier tous ces fonds dépensés par l'unité, par la communauté internationale pour faire du n'importe quoi? Je pense que quelque part là, nous devons, nous, en Congolais, nous ressaisir. Ça ne va pas.
François Elika, vous êtes analyste politique. Est-ce que vous pensez que ces nominations ont un impact sur l'indépendance de la justice en RDC, indépendance recherchée durant des années par c'est même le combat quotidien des magistrats congolais?
Disons qu'on s'éloigne de plus en plus des perspectives d'une indépendance réussie parce que on est en face de textes qui, au fait, endettent moralement les magistrats qui ont été nommés du fait de leur du fait qu'ils intériorisent, qu'ils réalisent un saut ou un sursaut dans leur carrière à travers ces ordonnances, alors qu'en principe une procédure communautaire, c'est-à-dire le Conseil supérieur de magistrature aurait pu prendre en charge une telle problématique. C'est vrai, le chef de l'État finirait par signer, mais lorsque ça découle d'une activité collégiale, on pense que les intérêts des uns des autres ont été protégés et que cela s'est fait en termes non pas de clientélisation, mais en termes plutôt de consécration du principe de l'efficacité. Donc, moi, je ne suis pas magistrat, mais lorsque vous entendez, par exemple, le président du syndicat des magistrats dire qu'on y a envoyé même des néophytes, on y a envoyé même ceux qui ont sauté des grades, ça veut dire que c'est vrai, c'est un corps, mais dans ce corps, il y a eu des contradictions que les autres connaissent, et ces contradictions, malheureusement, ont été escamotées en termes de prise en charge par
Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a des gens, parmi les gens qui ont été nommés, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment d'expérience?
Bon, mais au fait, ça, c'est pas mon expression, c'est le président du syndicat de magistrats qui l'a dit. Les néophytes, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Il y en a certains qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Et puis, il vous dit lui-même, il est magistrat. Je suis en train de tabler sur ses propres propos. Il vous dit qu'il y a des néophytes. Ça signifie qu'il y a des gens qui n'ont pas l'expérience, qui sont magistrats, qui connaissent le droit, mais qui n'ont pas ce qu'il a appelé la cassation, qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour siéger à ces niveaux-là sans un encadrement technique des anciens. Donc c'est quand même important en termes de reproduction de l'efficacité.
Puisque le secrétaire général ministère de la Justice, est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation? Est-ce qu'il y a des néophytes, c'est-à-dire des magistrats qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qui ont été nommés à de hautes fonctions?
Bon, quand on parle de néophytes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais exercé la magistrature à n'importe quel niveau, néophyte, c'est celui qui ne connaît absolument rien. Or, à ce que je sache, ceux qui sont allés à la Cour suprême de justice viennent tout droit du parquet, des cours d'appel, qui étaient même des premiers présidents des cours d'appel, qui sont censés aussi connaître d'une façon ou d'une autre la procédure en cassation. Je ne sais pas qui est néophyte. Le mot néophyte, c'est... Je n'aime pas le cas de vue qui n'est pas juste, je dis qu'il est trop fort.
Oui, est-ce qu'on peut, donner la parole à celui qui...
Encore, je ne sais pas, je ne dis pas mépris, hein, ça serait un mépris à l'égard des gens qui étaient au niveau de la cour d'appel, des premiers présidents, par exemple, quelqu'un que je connais. Vous dites qu'il est néophyte, moi je ne crois pas.
Voilà, je donne la parole à M. Sambaï Mutenda Lukusa, qui est président du syndicat des magistrats Sinamag. Est-ce que vous soutenez qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour ne pas parler de néophytes, hein? C'est là, on n'engage pas un radiocapi.
Ça engage, M. Sambaï qui le dit, ça engage le syndicat. Je voudrais vous dire que je maintiens l'expression. Je vous dis que la carrière de magistrat est une carrière hiérarchisée. Oui, cette carrière comprend environ 10 grades. Et que, quand les choses sont bien faites, on gravit de grade à grade. On ne saute pas de grade. Vous comprenez?
C'est
vous dire qu'il y a des gens qui appartiennent à une catégorie de grades, qui ont sauté des grades, c'est-à-dire qu'ils ont sauté des matières qu'ils auraient pu apprendre pour aller affronter des matières supérieures qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils sont obligés d'apprendre. Et je vous dis que la Cour suprême de justice est une cour de cassation aujourd'hui.
C'est-à-dire, cassation, ça
signifie
quoi?
Il statue sur les décisions du premier degré et du deuxième degré. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas me dire que...
Là, vous devez encore expliquer aussi à nos auditeurs, décision du premier et du second degré.
En termes de degré, ce sont les décisions prises au niveau soit de triplé, soit au niveau des tribunaux de grande instance. Les deuxièmes degrés sont des décisions prises soit au niveau de grande instance, soit au niveau de la cour d'appel. Donc, vous comprenez qu'on peut maîtriser, par exemple, le style et la manière de décider au deuxième degré, sans pouvoir maîtriser la manière de décider au niveau de la cassation. Donc, chaque palier a son niveau de connaissance, a son niveau d'expérience. Et c'est pour ça. Et je vous en parle en connaissance de cause, parce que j'ai dû, moi, travailler à un bulletin des arrêts sur la rédaction des notices. Des bulletins, disons, des arrêts de la Cour suprême de justice. Et je vous dis que ce n'est pas une chose facile. Donc ça demande un temps pour l'apprendre et poser la question à ceux-là qui ont été nommés maintenant. Ils vous diront qu'ils doivent passer un temps suffisamment long, parfois 2 ans, pour apprendre la cassation.
Merci
beaucoup. Posez même la question à ceux qui travaillent maintenant à la Cour suprême. Ils vous diront qu'ils ont le temps d'apprendre la cassation.
Merci beaucoup.
Qu'on ne dise pas qu'on raconte pas des histoires.
Merci beaucoup, M. Samba. Je repasse la parole rapidement au secrétaire général au ministère de la Justice, Kabumba Bendera. M. Samba soutient sa position. Votre réaction?
Je pense que j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Je me suis insurgé contre le terme néophyte, il n'est pas juste, et je crois que ceux qui sont à la Cour suprême de justice, qui ont été affectés à la Cour suprême de justice, qui viennent des cours d'appel, ils n'ignorent pas, ils ne pratiquent pas, là il a raison, mais ils sont au courant de la procédure devant la cassation, et on ne peut pas comprendre qu'un premier président de la Cour d'appel ignore, parce que ces procédures sont communiquées aux juridictions inférieures. Alors, je crois qu'ils n'auront pas de la peine à s'adapter. Parce que ce n'est pas qu'ils ignorent totalement. La Cour suprême publie des documents qui sont communiqués à toutes les juridictions.
Mais il leur faudra quand même un peu de temps pour apprendre, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, ils vont apprendre, mais ce n'est pas comme s'ils étaient absolument des gens qui ne sont au courant de rien. Et cela n'est pas vrai.
Monsieur François Elika, vous êtes analyste politique, est-ce que cela peut constituer un danger, notamment pour l'indépendance de la justice et de la magistrature en RDC, qu'on ait, par exemple, des magistrats, comme le dit Monsieur Sambay, qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience, qui connaissent le droit, mais qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience pour prêter à certains niveaux?
Écoutez, moi je voudrais que nous comprenions, il n'est pas ici question de dénigrer les magistrats. J'en connais beaucoup qui sont mes aînés, qui sont parfois mes pères aussi, qui ont une grande expertise en matière de droit. Le problème n'est pas qu'il y a des gens animés de l'intention de dénigrer qui ce soit. L'expression néophyte ne veut pas dire qu'on est ignorant. L'expression néophyte veut dire qu'il y a des matières nouvelles avec lesquels on n'a pas été en contact depuis toujours et qui peuvent exiger pour un certain temps que l'on puisse être dans un circuit d'apprentissage, alors que pour les autres, ça n'aurait pas pu être le cas. C'est cela que ça veut dire. Et si on reste dans une telle considération, on est en face d'une nécessité qui veut que personne ne s'oppose à la nomination de haut magistrat. Mais on veut qu'on ne puisse pas vider toute la Cour, qu'il y ait des mécanismes de transmission de cette expérience à travers une sorte de partenariat ou de collaboration entre les anciens et les nouveaux pour que finalement les uns et les autres soient rodés, parce qu'après tout, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité de la justice. Donc, on n'est pas en train de dénigrer les gens. Mais ici, disons que on reste dans l'argumentaire qui veut que on puisse justifier l'opportunité de la signature de ces ordonnances présidentielles par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas encore mis en place. Mais si c'est ça l'argument, ça veut donc dire qu'on ne peut pas signer ces ordonnances, qu'on aurait pu ne pas les signer, parce qu'on s'est dit, dans peu de temps, on pourra avoir l'arsenal nécessaire pour que le Conseil supérieur soit mis en place. Donc ceci démontre que, quelque part, En amont, il y a eu déficit de hiérarchisation des priorités parce que si on avait fait de la justice, l'urgence des urgences, on s'est battu pour que finalement les textes régissant les conseils supérieurs de la magistrature soient déjà prêts, en tout cas avant plusieurs d'autres lois qu'on a pu avoir, qu'on a pu voter au niveau du Parlement, parce que finalement, la sécurité judiciaire est même réclamée aujourd'hui comme exigence en termes de gouvernance.
Est-ce que,
donc, je note par rapport à ça que ces déficits de hiérarchisation aujourd'hui semblent ne pas constituer l'enjeu du débat, mais plutôt on veut justifier l'opportunité de ce qu'on pouvait faire déjà avant.
Est-ce que, monsieur l'assistant, vous voulez dire que la signature ou la prise de ces ordonnances crée beaucoup plus de problèmes que ces ordonnances ne cherchent à
régler? Mais bien sûr, je vous ai dit que de plus en plus, nous nous éloignons de perspective même de la recherche de l'indépendance qui est voulue par tout le monde. Parce que on dit en attendant que le Conseil supérieur puisse se mettre en place. Mais lorsqu'il va se mettre en place, ce Conseil supérieur va encore proposer de nouvelles nominations où on sera en face des gens qui ont été nommés mais dont la procédure n'avait pas été prise en charge par le Conseil supérieur. Donc il y a ici une sorte, moi j'appelle ça une sorte d'endettement politique qui veut que finalement là-dedans on puisse à la fois en termes structurels, donc par rapport à la justice en tant qu'institution, qu'on assiste à sa périphérisation parce qu'elle va être subordonnée à travers à cette volonté politique, mais entre-temps ceux des magistrats qui ont été nommés, se sentent un peu subordonnés aussi parce que ce décret-là, on voulait que, même si le chef de l'État peut nommer, mais que ça passe par le corps. Comme
merci.
Ça, on sent que la chose provient des magistrats eux-mêmes plutôt que de
merci. Merci beaucoup, François Elika. Nous accueillons dans ce studio notre confrère Guy Roger Nyampala, qui est le porte-voix de nos nombreux auditeurs à travers le pays, à travers le monde. Bonsoir, Guy Roger.
Bonsoir, Claude Quinza. N'empêche Kibiswa de Kinshasa estime qu'il n'était pas urgent de nommer des nouvelles personnes à la tête de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République. Ces nominations, selon lui, ont été faites pour que l'exécutif ait une mainmise sur l'appareil judiciaire. Selon lui, c'est un cadeau, c'est un calcul politique. Maître Landi Tshishindi, depuis La Haye aux Pays-Bas, pense qu'après la mise à la retraite de plusieurs magistrats, il est temps de songer à la relève en recrutant des nouveaux jeunes dans les juridictions de base. Enfin, la nomination d'un nouveau président de la Cour suprême de justice par le président de la République est-il constitutionnel, s'interroge Léon Banamounoulé de Béni, au Nord Kivu.
Merci beaucoup, Guy Roger Nyampala. Monsieur Kabumba Bendera, vous êtes secrétaire général au ministère de la Justice. Monsieur Kibiso Anantès pense que ce n'était pas urgent de nommer des hauts magistrats à la tête de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République. Ces nominations ont été faites pour que l'exécutif ait une main mise sur l'appareil judiciaire. C'est un calcul politique. En une minute, est-ce que vous pouvez répondre?
Bon, ça l'engage lui-même. Il dit tout à l'heure que la mise à la retraite, c'est un temps qui a été accompli par les magistrats. Et je ne sais pas s'il y avait une disposition qui pouvait dire qu'il faudrait attendre. J'insiste, je reviens là-dessus. Et dire que ce n'était pas le moment. Mais les magistrats ont accompli les dispositions, c'est-à-dire ce qui est prévu à l'article 70, ils ont accompli 65 ans d'âge et 35 ans d'âge. Alors on peut dire que c'est trop tôt par rapport à quoi? À la disposition de cet article. Je dis non. Alors le reste, quand on dit un calcul politique, ainsi de suite, je sais que mon ami Kibiso est syndicaliste, il ne peut que tenir ce langage.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup. Il y a Monsieur Nsamba, il y a Maître Ladi Tshishindi depuis La Haye aux Pays-Bas qui pense que la mise à la retraite de plusieurs magistrats, qu'après la mise à la retraite de plusieurs magistrats, il est temps de songer à la relève en recrutant de nouveaux jeunes dans les juridictions de base. Rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Je pense qu'il n'a pas tort. Depuis longtemps, notre pouvoir judiciaire ou notre pouvoir chargé de la mission habituellement confiée à la justice en général, souffre d'un grand déficit. Imaginez que même maintenant qu'on vient de procéder à la remise à la retraite, nous souffrions déjà d'un déficit de, les membres, les magistrats. Nous avons pour environ 70 millions d'habitants dans la République, plus ou moins 1700 magistrats actifs. Ce point inférieur au minima exigé par les instruments.
Merci beaucoup. Nous sommes obligés de vous interrompre, M. Samba. Vous êtes président du syndicat national des magistrats. Merci aussi à Kabumba Bendera, qui est secrétaire général au ministère de la Justice, et à François Elika. La mise en onde était assurée par Mimi Kindo et la réalisation par Nadine Koula. Guy Roger Nyampala a été à la préparation. Merci et bonne soirée à tous. Thank you.